Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, nous vous retrouvons, Sylvain Sipel. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé des questions internationales, ancien membre de la rédaction en chef du Monde, collaborateur d'Orient 21 et auteur, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de Les Emmurés, la société israélienne dans l'impasse, paru aux éditions La Découverte. Je le disais en introduction de l'émission, en novembre dernier, 7 journalistes issus de 6 pays de l'Union européenne étaient invités par la délégation de l'Union européenne en Palestine afin d'y constater divers aspects des soutiens apportés à l'autorité palestinienne. Vous avez vous-même fait ce voyage, Sylvain Sipel, il y a quelques mois. On l'évoquait dans la première partie de l'émission, différence de traitement, manque de sécurité. Nous avons ressenti tout cela à l'occasion de la visite d'une école de filles à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie. Une école en zone dite vulnérable, car située près d'un checkpoint, ce qui se traduit pour les élèves par un stress quotidien. Une école dont le salaire des professeurs est justement financé par l'Union européenne. Je vous propose d'entendre le témoignage de Somaya Zatari, professeure principale.
Certaines de nos élèves doivent passer à travers des checkpoints et sont confrontées aux soldats israéliens. Quand la violence monte, qu'il y a des bombes lacrymogènes, des cris, elles sont effrayées et parfois ne veulent plus aller à l'école. Quand il se passe quelque chose sur le chemin de l'école, ça les stresse. Et le lendemain, elles ne veulent plus y aller. Le résultat, c'est que souvent, elles restent 2 ou 3 jours à la maison, puis elles reviennent avec leurs parents qui nous expliquent les raisons pour lesquelles elles ne sont pas venues pendant plusieurs jours. Alors on s'assied avec les élèves et on les fait raconter. Nous parlons de ce qui s'est passé durant leur trajet, de l'école, nous en discutons. Elles sont très stressées. Parfois, les soldats israéliens leur disent des choses difficiles à entendre pour elles. Ils leur parlent en arabe. Les élèves ont honte de ce qu'elles entendent. Il n'y a pas toujours que des mots, il y a aussi des gaz lacrymogènes, des bombes assourdissantes. Les soldats israéliens ont pour seul objectif que les jeunes filles n'aillent pas à l'école, qu'elles n'acquièrent pas l'éducation dont elles ont besoin pour la vie. Donc, nous perdons un certain nombre de jeunes filles. Cette année, nous en avons perdu 6 qui ne viennent plus à l'école. Elles restent à la maison, elles ne veulent plus venir, elles ont peur. Pour certaines les plus chanceuses, leurs parents font appel à un chauffeur spécial qui les emmène le matin et vient les rechercher le soir. Mais ça représente beaucoup d'argent et ils ne peuvent pas faire cela tous les jours d'école.
Sylvain Sipel, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre, donc ce témoignage de Somaya Zatari, professeur principal d'une école à Hébron.
J'ai été plusieurs fois à Hébron. À chaque fois que j'y ai été, j'ai été plus que bouleversé. Vous savez, les militants israéliens, ce qu'on appelle les briseurs de silence, hein, breaking the silence, qui sont tous d'anciens soldats qui témoignent, la première chose qu'ils font quand ils rencontrent un interlocuteur, c'est de l'amener à Hébron. Si vous voulez, il y a quelque chose de sidérant à Gaza, c'est-à-dire on tire sur des gosses qui manifestent et qui sont désarmés, et on en a déjà tué un certain nombre, plusieurs dizaines, et il y a 25 000 blessés. À Hébron, c'est une forme d'occupation d'une brutalité, et sur le plan éthique, je ne sais pas comment dire, j'essaie de ne pas dire de mots trop forts, mais c'est absolument ordurier. Vous savez, à Hébron, il y a une bande de fous, il y a 800 colons en plein cœur de la vieille ville d'Hébron qui occupent ces lieux, qui ont enfermé les Arabes qui vivaient là dans leur maison, qui prennent leur place. Leurs gosses écrivent des inscriptions sur les maisons arabes, il faut voir ça, en ne cessant d'écrire « les Arabes sont des porcs », précisément avec le mot « porc » qui a un sens pour l'islam. La seule fois où les Israéliens, c'était une histoire qu'avait raconté le journal Haaretz, c'est une fois les soldats israéliens ont effacé un de ces slogans écrits sur les murs, parce que le slogan disait « les Arabes aux chambres à gaz ». Ça devenait trop là. Hein. Alors je parle de la zone d'Hébron qui est autour du caveau des patriarches. C'est un spectacle absolument sidérant.
Alors, nous y sommes allés, Sylvain Sipel. Vous parlez de l'ONG Breaking the Silence. Je vais vous proposer dans quelques instants l'interview d'un ancien soldat. Juste pour nos auditeurs, Hébron, situé à une 30aine de kilomètres de Jérusalem, l'une des villes les plus importantes de Cisjordanie, où vivent quelques 200 000 Palestiniens et 800 colons. Vous l'avez dit, alors peu de temps avant notre visite, le 12 octobre, une Palestinienne est décédée, atteinte d'une pierre à la tête, alors qu'elle occupait le siège passager de la voiture familiale qui roulait à proximité de la colonie de Réélim. Je ne sais pas si je prononce correctement, une colonie plutôt classique, établie de façon illégale en 1991. Et les suspects ont été récemment interpellés, des adolescents juifs mineurs étudiant dans un internat religieux de Réélim. C'est vrai que la tension, elle était toujours palpable plusieurs jours après ce décès, lorsque nous avons visité Hébron. Vous l'avez dit, c'est une ville qui s'est très vite transformée en ville fantôme, puisque des quartiers entiers, des quartiers palestiniens ont été interdits, les magasins sont fermés. C'est vraiment
le souk est fermé, oui.
Une visite absolument impressionnante. Et nous avons visité donc Hébron avec un guide. Quand nous avons visité, une voiture de colons s'est arrêtée à proximité de notre groupe pour nous filmer. Et les militaires israéliens étaient là, collés à nous, afin d'écouter ce que Nadav Ayman, notre guide, nous racontait. Nadav Ayman est aujourd'hui âgé de 32 ans. Il a servi dans les forces de défense israéliennes entre 2005 et 2008 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Il fait partie, je l'ai dit, de Breaking the Silence, une ONG israélienne établie en 2004 à Jérusalem-Ouest par des soldats et vétérans des forces de défense israéliennes. La mission déclarée de l'organisation est de briser le silence des soldats qui retournent à la vie civile et qui découvrent le gouffre entre la réalité qu'ils ont vécue dans les territoires occupés et le silence qu'ils rencontrent une fois retournés à la vie civile. On écoute Nadav Ayman.
La situation à Hébron est unique. Elle est la seule ville de Cisjordanie à avoir une colonie juive installée en plein cœur de la ville. Et la particularité est que la circulation est absolument interdite aux Palestiniens depuis le début de la deuxième intifada pour protéger les colons. Ça a commencé le jour où des colons ont assassiné des Palestiniens à l'intérieur de la tombe des patriarches, à l'intérieur de la mosquée. Et ça n'a été fait que pour des raisons de sécurité, pour protéger les colons. C'est aussi pour des raisons soi-disant de sécurité que les magasins ont été fermés. La circulation a également été interdite. C'est toujours pour des raisons de sécurité que la plus grande ville de Cisjordanie a été transformée en ville fantôme. L'installation des colons a signifié un arrêt total de la vie des Palestiniens. Les soldats qui sont envoyés ici sont chargés de protéger les colons. Peu importe que ces soldats soient de droite ou de gauche, ils sont chargés de protéger les colons. Et les colons à Hébron sont très 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 violents. Vous avez vous-même pu voir la façon dont les soldats se sont comportés lors de notre visite. Ils ont vraiment cherché à nous intimider. Ils vous considèrent comme l'ennemi parce que vous venez constater et parler de ce qui se passe ici. C'est comme cela que notre société voit les choses. Si vous parlez dans le pays ou à l'extérieur de l'occupation, et particulièrement d'Hébron, vous portez préjudice à la sécurité d'Israël. C'est comme ça que vous, les journalistes, ou nous, les activistes des droits de l'homme, sommes considérés comme des traîtres ou des ennemis d'Israël.
Combien de colons à Hébron, combien de Palestiniens et sur quelle base les colons s'installent-ils ?
Nous avons 200 000 Palestiniens dans la ville d'Hébron et 850 colons. Pour les garder, il y a 650 soldats. Et les week-ends, le nombre de soldats monte à 900. 900 soldats pour garder 850 colons. Les colons sont là à cause de l'importance religieuse du tombeau des patriarches. Ce que personne ne conteste. C'est un lieu très saint pour la religion juive. Mais il y a de quoi se poser des questions sur la raison même de ces colonies en pleine ville palestinienne. Les colons continuent d'arriver. On envoie toujours plus de soldats et personne ne parle des répercussions de tout cela.
Vous êtes vous-même un ancien soldat. Quel a été l'élément déclencheur de votre prise de conscience et de votre changement d'attitude ?
Le simple fait d'être soldat en Cisjordanie. J'ai grandi en Israël avec l'idée que je devais protéger Israël. Quand j'avais 18 ans, je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour protéger mes concitoyens. Puis vous finissez l'école de formation et vous devenez un soldat combattant. Vous êtes envoyé en Cisjordanie et vous découvrez que vous êtes un officier de police qui se charge de faire appliquer la loi militaire aux Palestiniens. Vous ne protégez pas Israël, vous protégez les colonies à Hébron ou ailleurs. Et pour moi, ça a été un choc. Soudainement, j'ai compris ce que je faisais et tout à coup, je vois des millions de Palestiniens me regarder avec un sentiment de haine parce que je suis un soldat occupant. Au début, je pensais que c'était parce que je suis juif. J'ai mis longtemps à comprendre que c'était parce que j'occupais leur terre. Le processus a été lent. J'ai mis du temps à comprendre que ce qui se passe ici n'est pas bon pour Israël. Tout ceci fait du mal tant à la société israélienne qu'à la société palestinienne.
De quoi les colons vivent-ils ?
Ils peuvent circuler et aller partout, rapidement et facilement. Beaucoup d'entre eux travaillent pour l'État d'Israël, dans l'éducation, les services de santé, dans différents bureaux du gouvernement que nous avons ici en Cisjordanie. De nombreuses organisations non gouvernementales de droite reçoivent beaucoup d'argent des communautés juives du monde entier. Immensément de choses en Cisjordanie sont subventionnées par le gouvernement israélien. Les bus, par exemple. Nous disons que nous subventionnons les bus pour éviter que les colons ne se fassent kidnapper sur les routes. Donc tous les bus sont très bon marché, bien meilleur marché qu'ailleurs, comme à Tel Aviv par exemple. Le système scolaire, tout est subventionné, donc économiquement c'est plus facile de vivre dans les colonies.
Just last question, la situation continue d'évoluer beaucoup à Hebron, very new one.
Au cours des 6 derniers mois, de nouvelles colonies se sont installées. Récemment, notre gouvernement a donné 22 millions de shekels pour construire 31 nouvelles unités d'habitation. Beaucoup de choses changent à Hébron depuis 2 ans. Le mouvement de colonisation ou d'occupation à Hébron n'est pas un mouvement du passé. C'est un processus qui est en cours. Donc si nous voulons arrêter cela, il y a un moment où on ne pourra plus séparer la colonisation de l'occupation en Cisjordanie. La solution, un État, 2 États, peu importe, mais on arrive à un point où il y a tellement de citoyens juifs que ce sera insoluble.
Sylvain Sipel, commentaire. De ce que nous venons d'entendre.
Il y a tellement de choses sur ce qu'on a entendu. D'abord, je vais répéter ce que je disais. Vous savez, si vous voulez convaincre quelqu'un de l'horreur de cette occupation, il faut l'amener à Hébron. Au-delà de ça, il faut tenir compte de ce qui se passe dans la société israélienne. C'est-à-dire, les gens de Breaking the Silence sont des gens qui vivent dans une solitude absolument extraordinaire. Et en même temps, le nombre des Israéliens, souvent des jeunes, qui adhèrent aux ONG, parce qu'il y a énormément d'ONG, soit de dénonciation et d'activisme contre l'occupation, soit d'aide humanitaire aux Palestiniens. Elles sont très nombreuses en Israël. Ils font un travail tout à fait extraordinaire et ils sont clairement, immensément plus nombreux qu'ils n'étaient, disons, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc c'est un paradoxe, parce qu'à la fois ils sont plus nombreux et en même temps, ils se sentent incroyablement dissociés de la société israélienne. Et la raison, c'est que d'abord, il y a tout un corpus juridique qui a été voté au Parlement israélien. Il faut tenir compte d'une chose. La droite dite révisionniste, c'est le nom du parti sioniste historique qui représentait la droite nationaliste. Donc, les révisionnistes sont au pouvoir depuis 40 ans. Pile 40 ans. Sur ces 40 ans, elle a eu le pouvoir pendant 36 ans. Il y a eu 2 fois 2 ans où, voilà, ils ont partagé le pouvoir avec les travaillistes, où il y a eu Rabin dans une courte période qui a fait Oslo. Tout ça a un coût. C'est le parti de la colonisation. C'est le parti du Grand Israël qui est au pouvoir. Toute une société israélienne est éduquée dans une idéologie ethniciste, avec des relents racistes, il faut dire les choses comme elles sont, épouvantables vis-à-vis des Arabes. Et donc, le résultat, c'est justement à Hébron, il y a eu une affaire il y a 1 an avec ce soldat, Elor Azaria, qui commet un meurtre contre un Palestinien qui de toute façon était déjà blessé, qui gît dans son sang, qui a 16 ans, il s'approche de lui et il lui met une balle dans la tête. Pour ce crime, il a fait 8 mois de prison seulement. Et quand il sort, on l'interroge et il dit « s'il faut le refaire, je le referai ». C'est-à-dire qu'il le fait en toute bonne conscience, en conviction qu'il est dans son bon droit. La société israélienne a pas mal évolué quand même sur les 50 dernières années à cause de l'occupation.
Alors, dernier élément de notre reportage, dans la ville de Ramallah, située juste au nord de Jérusalem, nous avons rencontré Mohamed Al-Attar, qui est réalisateur américano-palestinien, dont le dernier film Broken, que l'on peut traduire par cassé, était présenté au festival du film palestinien de Ramallah. Il y est question du mur que construit Israël, déclaré illégal par la Cour de justice internationale. Ce mur est non seulement toujours debout, mais sa construction se poursuit, rendant kafkaïenne bon nombre de situations et impossible la vie des Palestiniens. On écoute Mohamed Al-Attar.
Mon film est là pour dire qu'il est nécessaire que le droit international soit respecté. Parce que si on ne respecte pas le droit international, comme l'un des juges le dit dans mon film, l'alternative, c'est le chaos. Regardez le pitoyable état dans lequel se trouve la région, le Moyen-Orient. Pourquoi ne pas contraindre Israël à respecter le droit international? Pourquoi l'État d'Israël est-il au-dessus des lois? 14 juges de la Cour de justice internationale contre 1 ont décrété que le mur était illégal. C'est la cour la plus importante du monde. Elle a décrété le mur illégal et demandé son démantèlement Rien ne s'est produit dans ce sens. Et la raison principale pour laquelle rien ne s'est passé, c'est à cause du soutien aveugle des États-Unis. Et il n'y a pas de volonté du côté des Européens de se dresser contre les États-Unis par rapport à Israël. L'Europe a son histoire avec Israël et le peuple juif, et cela vient toujours se mettre au milieu. Mais je crois qu'il est temps pour eux de parler droits de l'homme. Les Européens nous ont appris les droits de l'homme. Pourquoi ne les défendent-ils pas ?
Would you be more pessimistic? Êtes-vous plus pessimiste maintenant que lorsque vous avez produit le mur de fer?
Did the Iron Wall?
No, actually, I was much more optimistic when I did the Iron Wall.
J'étais beaucoup plus optimiste quand j'ai fait le mur de fer. Au moins, à cette époque, je pensais qu'il y avait toujours une chance. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est fini. Il n'y a rien que les Palestiniens puissent faire. Le grand deal du siècle, comme l'évoque le président américain, c'est de liquider la cause palestinienne. Nous n'avons pas d'État. Il y a un morceau à Gaza, un autre en Cisjordanie. Celui de Cisjordanie devrait, au bout du compte, rejoindre la Jordanie, celui de Gaza, l'Égypte, et oublier l'État palestinien. Aujourd'hui, j'ai 56 ans et j'ai passé l'essentiel de ma vie à travailler pour cette question. Si ce n'est pas une déception nationale, c'est en tout cas une déception personnelle. Moi vivant, je ne verrai pas un État palestinien.
Pour les gens qui n'ont pas vu vos films, quelle description pouvez-vous faire de la situation en Cisjordanie pour les Palestiniens et que dire du mur lui-même ?
Alors pour les Européens ariens, ce que je vais dire peut être dur, mais si vous y réfléchissez, c'est vrai. Nous sommes devenus les Juifs d'Europe. Nous avons inversé les places. Nous sommes toujours accusés, nous sommes toujours opprimés, nous sommes toujours rabaissés. J'ai un passeport américain et quand je voyage en Europe, à l'aéroport, je suis toujours coincé une heure et demie alors que j'ai un passeport américain, simplement parce que je m'appelle Mohamed et que j'ai le physique que j'ai. Je crois que c'est une situation très dangereuse actuellement parce que les Palestiniens commencent vraiment à ne plus avoir d'espoir. On n'en sortira jamais et nous nous battrons jusqu'à la mort. C'est comme Masada. Si vous connaissez l'histoire de Masada, on va tous finir par se suicider.
Y a-t-il une menace dans votre propos,
saying that something might happen?
Il y a toujours une menace. Quand je quitte le pays, je suis quelqu'un qui n'a vraiment peur de rien. Mais pour être honnête avec vous, quand j'arrive au pont israélien, je deviens quelqu'un de lâche. Parce que ce sont eux qui décident si vous avez le droit d'aller dans votre pays ou non. Je n'ai pas de carte d'identité palestinienne, ils n'ont pas voulu me la donner. Vous n'allez pas le croire, mais c'est Israël qui donne leurs documents d'identité aux Palestiniens. Ce n'est pas l'autorité palestinienne qui le fait. Je voyage avec un passeport américain et j'entre dans mon pays comme vous, avec un visa touristique. Donc à chaque fois, à ce pont, c'est comme un croisement. Soit j'entre dans le pays, soit ils me privent de ma famille pour le reste de ma vie. C'est un sentiment absolument terrible. Si je veux prévoir quelque chose avec ma fille, je dois penser aux Israéliens, à leurs checkpoints. Et maintenant, le mur est devenu une métaphore. Nous vivons dans un ghetto. Et la mentalité de ghetto des Palestiniens, vous commencez à la voir. La mentalité de ghetto, c'est quand vous vous mettez à fermer votre esprit à tout ce qu'il y a autour de vous. Au sein du camp, au sein de la ghettoisation, les Palestiniens luttent absolument pour tout, parce que personne ne leur donne des droits, personne n'écoute. Vous imaginez la frustration, c'est ce que j'appelle la mentalité de ghetto.
Vous venez d'entendre Mohamed Al-Attar, Sylvain Sipel, un commentaire en guise de conclusion.
Écoutez, j'ai écrit, mon livre s'appelait Les Emmurés. Il portait sur les deux, à la fois sur les Israéliens et aussi sur les Palestiniens. L'idée, c'était que les Palestiniens sont emmurés physiquement et les Israéliens sont emmurés mentalement. Depuis l'écriture de ce livre, ce processus-là s'est incroyablement aggravé. Et c'est vrai aussi que de plus en plus, les Palestiniens sont également mentalement emmurés. C'est ce que décrit le réalisateur. C'est un drame, mais je ne sais pas si c'est une lueur d'espoir, mais si je peux le convaincre que tout espoir n'est pas mort, eh bien je pense sincèrement que l'État d'Israël est sur une pente qui va le mener à sa perte. Les lois qui sont adoptées, les liens politiques que Israël tisse avec des régimes qui sont des régimes d'extrême droite, c'est quelque chose d'absolument sidérant. Moi, je rentre d'Israël, j'ai interrogé une trentaine de personnes et beaucoup de gens disent que cet État est en train de se suicider tout seul. Et c'est vrai que s'il reste sur cette pente-là, et on ne voit pas comment il pourrait en sortir aujourd'hui, sa fin sera terrible.
Merci, Sylvain Sipel. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé des questions internationales, ancien membre de la rédaction en chef du Monde, collaborateur d'Orient 21, et donc Les Emmurés, la société israélienne dans l'impasse aux éditions de La Découverte. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À demain.